Mesdames, Messieurs, il est 19h, donc je pense qu'on va pouvoir commencer ce conseil municipal de rentrée. Le quorum est respecté. Donc, on va pouvoir donc examiner l'ordre du jour. Nous avons les excuses de Hugo Rodriguez-Souza qui donne pouvoir à Christian Servan, Christophe Talia qui donne pouvoir à Antoine Di Paolo, Jacques Pellegrin qui donne pouvoir à Claude Bougot, Pascal Convert qui donne pouvoir à Michel Bisaccia, et Gilbert Zavrosa qui donne pouvoir à Rémi Mounier. Je demande à Mireille Papin si elle veut assumer la haute fonction de secrétaire du Conseil. Très bien, merci. Elle signera donc les PV demain. Et on va donc commencer par le premier point qui est la validation du procès-verbal de la précédente séance. Est-ce que vous avez des observations par rapport à ce procès-verbal ? Je vais le mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient, qui est pour. Donc le procès-verbal est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Le premier point, donc vous l'avez en administration générale, c'est l'état des décisions du maire. Donc il n'y en a pas eu trop, hein, il y en a eu quatre. Donc vous avez vu un petit peu la nature des décisions. On a validé le marché du transport scolaire avec la SRT. Pour la période de 1er septembre 2025 au 31 août 2028. Et puis, on a passé plusieurs contrats d'animation avec la médiathèque, la crèche, et on a donc intégré aussi le contrat avec Rivoire Paysage pour l'intervention dans le cadre de nos espaces verts. Donc, il n'y a pas besoin de les valider, hein, c'est une information que je vous ai donnée. Des remarques par rapport à ces décisions ? Il n'y a rien d'exceptionnel. Le point suivant, le point 2, c'est l'approbation du rapport de gestion pour 2024 de la société Novim. Donc, Claude, si tu veux dire un petit mot rapide. Bon, c'est une société d'investissement foncier collectif, on va dire, qui substitue à différentes entités qui ont existé comme la SEDL. Aujourd'hui, c'est Novim et on est effectivement membre de cette structure. Claude ?
Pardon. Oui. C'est une société d'économie mixte, Novim, dans laquelle nous sommes actionnaires pour 0,01% du capital public, ce qui fait une somme de 758 euros. Donc, le Code général des collectivités territoriales précise dans son article L1524-5 que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration. Donc, afin de satisfaire à cette obligation, il convient de vous prononcer sur le rapport de gestion de Novim et les états financiers pour l'exercice 2024 validés par l'Assemblée générale ordinaire. Ces documents étaient donc consultables au bureau de notre directeur général des services. On peut le remercier pour le surcroît de travail énorme que ça a dû lui occasionner.
Donc des questions, c'est un rapport qu'on présente année après année. Bon là, on est actionnaire plus par solidarité que par intérêt, puisque c'est une structure avec laquelle on travaille très peu, spécialisé dans des projets d'investissement foncier pour les collectivités. Voilà. Des questions par rapport à ça ? Donc, je vais vous demander de bien vouloir approuver ce rapport de gestion pour l'année 2024. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, on va valider à l'unanimité ce rapport de gestion et je vous en remercie. Le point suivant, c'est un déplacement de candélabre rue Ambroise-Croizat au Charpenais. Donc, je vous expose qu'il y a lieu d'envisager des travaux de déplacement de candélabres rue Ambroise-Croizat, conformément à ses statuts, l'article 2 notamment, et aux modalités définies par son comité et son bureau, le ciel, territoire d'énergie Loire, peut faire réaliser des travaux pour le compte de ses adhérents. Nous sommes...
Qui c'est qui a dit ça ?
Bon, donc... nous sommes donc membres du ciel et à ce titre-là, donc on a un projet pour 4272 euros de déplacement de candélabres rue Ambroise-Croizat Avec la remise de 2%, ça nous coûtera 4 186 euros. Ces contributions sont indexées sur l'indice travaux publics 12. En fait, il s'agit, là où le terrain a été vendu, qu'il y a eu deux petites constructions de fait, il y a eu 4 parkings qui ont été neutralisés. Donc, pour ne pas pénaliser les habitants du Charpenais, même leur donner un petit peu plus de souplesse, on a demandé à Métropole de créer des parkings en face de ce nouveau projet immobilier. Donc, ça s'est réglé bien évidemment dans de bonnes conditions. Simplement, sur cet espace où il y avoir des parkings, il y a 2 candélabres qu'il va falloir déplacer et remplacer. Donc, voilà, je crois que c'est 2, hein, Frédéric, il me semble. 2 candélabres, voilà. Donc, c'est logique, on fait des parkings, on va déplacer les candélabres. Donc, je vous demande de bien vouloir demander au ciel d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de déplacement de candélabres rue Ambroise-Croizat, dans les conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier me sera soumis pour information avant exécution. Prendre acte que des travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la Métropole et que le chantier ne pourra débuter qu'après délibération de Saint-Étienne Métropole. Les places de parking sont réalisées dans le cadre de notre enveloppe voirie par Saint-Étienne Métropole. Approuver le montant des travaux et la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté, prendre acte que le versement du fonds de concours au ciel territoire d'énergie est effectué en une seule fois et m'autoriser à signer toutes les pièces à intervenir. Des questions? Alors, puisqu'on parle du Charpenais, mais ça sera pour après, pour l'avenir, l'ensemble des réverbères et lampadaires au Charpenais sont dans un très très mauvais état. Ils sont attaqués par la corrosion. Donc il faudra sans aucun doute, très rapidement, mais rapidement ça veut dire 2026, envisager de les remplacer tout ou partie. Ils sont vraiment très abîmés et donc présentent un danger potentiel de d'écroulement sur la chaussée. Donc là, il s'agit simplement d'en déplacer dans le cadre de la création d'un parking. Des questions par rapport à ce petit projet, qui est un projet d'ajustement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc la décision est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Le point suivant, un peu plus compliqué dans sa présentation. Saint-Étienne Métropole va construire un nouveau réseau d'assainissement le long du Furan, jusqu'au CHU, sur les communes de L'Étrat et de Saint-Priest-en-Jarret, afin de pallier la problématique d'inondation du secteur et du CHU. L'aménagement des berges sera également effectué. C'est un énorme projet qui est en cours là, par Métropole. Cet ouvrage nécessite de passer sous la parcelle AB199 au Charpenais. Saint-Étienne Métropole, dans le cadre de sa compétence en matière d'assainissement, doit réaliser des travaux sur propriété privée. Préalablement à toute intervention, l'autorisation des propriétaires ou de leurs représentants est requise. Par ailleurs, à l'issue des travaux, une convention de servitude sera établie entre les parties afin de matérialiser la présence des ouvrages et les droits et obligations des parties. Cette servitude sera réitérée par acte authentique. Ces travaux sont prévus au quatrième trimestre 2026 pour une durée d'environ 12 mois. La présente convention est consentie à titre gratuit par les propriétaires à Saint-Étienne Métropole. Et je vous demande donc de bien vouloir approuver cette convention d'engagement de constitution de servitude de canalisation avec Saint-Étienne Métropole, ainsi que l'autorisation de réaliser les travaux et d'autoriser à les signer. Si vous voulez, Métropole est en train d'engager des gros travaux sur le Furan et vont supprimer les 2 seuils qui existent actuellement, un à l'entrée de l'Étrat, à la hauteur du pont, et un peu plus loin, à la hauteur du site de l'ASS, pour fluidifier, c'est le dire, le débit du Furan. Il y a également un renforcement des digues pour éviter que, si un jour il y a une grosse inondation, le secteur du CHU ne soit inondé. Donc ça, c'est la gestion du débit du Furan. C'est plus compliqué que ça encore. Bon, ils vont détourner une partie du lit actuel. C'est très, très compliqué. Il y aura d'ailleurs, je crois, c'est annoncé, une réunion publique à l'Étrat ou fin septembre ou début octobre pour les gens qui s'intéressent. Donc Métropole, l'Étrat, la Tour et Saint-Priest. Nous, on est très peu impactés parce que même de notre côté, le long du Furan, jusqu'au Charpenais, c'est encore l'Étrat. Donc on est impactés. C'est pour ça qu'on est dans la servitude, uniquement pour une petite partie qui va donc du Charpenais au CHU. Tous ces travaux doivent être faits rapidement avant que les gros travaux du CHU ne débutent, à savoir la création d'un deuxième bâtiment mère-enfant. Donc voilà. Ils attendent d'ailleurs que ces travaux, je dirais, de logistique soient faits pour pouvoir commencer les travaux. Et c'est vraiment très important comme travaux. Donc voilà, nous, on signe une servitude, comment on les autorise à passer les réseaux d'assainissement. En fait, il devrait y en avoir deux, un de notre côté et un d'autre côté à la hauteur de l'ASS et de la route jusqu'aux Olières. Des questions par rapport à ça? C'est un dossier technique, hein, on n'apporte rien de plus. C'est une servitude par rapport à Métropole. Donc des questions? Il n'y a pas d'impact visuel, il n'y a pas d'impact environnementaux, c'est simplement des gros tuyaux qui vont être tirés et dimensionnés par rapport aux futurs besoins. Donc, qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, à l'unanimité, nous allons valider la convention avec Saint-Étienne Métropole. Et je vous en remercie. Point suivant, qui est un point d'actualité. Alors, y arriver. Vous savez que depuis le 1er septembre, on est en pré-campagne électorale jusqu'au 28 février, qu'il y aura des élections théoriquement le 15 mars et potentiellement, s'il y a deux tours, le 22 mars. Et que donc, j'ai regardé par rapport à 2020, parce qu'on est exactement sur le même calendrier, la campagne électorale officielle, celle où on a des panneaux dédiés qu'on peut afficher, etc., devrait commencer, à mon avis, mais ce n'est pas encore validé par la préfecture, le 2 mars. Donc il y a deux périodes, maintenant jusqu'à fin février et du 2 mars jusqu'au 15 mars. Donc ce qu'on vous propose, c'est une mise à disposition gratuite des salles communales pour les candidats qui vont se déclarer aux élections pendant les périodes préélectorales et électorales. Il y aura deux temps, la période actuelle jusqu'à fin février et la phase de période électorale, je dirais, juridiquement plus encadrée. Donc, les services municipaux sont régulièrement sollicités en vue de la mise à disposition de salles municipales destinées à accueillir des réunions à caractère politique, tout particulièrement à l'approche des scrutins électoraux. L'article L52.8 du Code électoral prohibe les dons en nature consentis par les personnes morales de droit public ou privé pour le financement de la campagne électorale d'un candidat. Le prêt gratuit d'une salle municipale est assimilé à un don en nature, sauf si chaque candidat peut en bénéficier dans les mêmes conditions, tout ou rien. Les élections imposent la mise en place d'un dispositif garantissant le respect du cadre législatif et l'équité entre les candidats. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2144-3, vu le Code électoral et notamment son article L52-8 et vu le Code général de la propriété des personnes publiques, considérant la nécessité d'optimiser les conditions de mise à disposition des salles municipales en période préélectorale et électorale et de garantir une parfaite égalité de traitement entre les différents demandeurs, considérant la nécessité d'encadrer ces mises à disposition pour assurer la liberté d'expression politique sans préjudicier au fonctionnement des équipements concernés, je vous demande de bien vouloir accepter de mettre à disposition à titre gratuit les différents candidats ou leurs représentants, les salles municipales numéros 11 et 12 du Clos Bayard et de la Villa Saint-Michel pour l'organisation des réunions politiques dans le cadre des élections. La mise à disposition gratuite inclut le matériel disponible dans la salle sollicitée, sonorisation, vidéoprojecteur, table et chaises. Précisez que ces mises à disposition de salles municipales ne pourront être accordées que si elles sont compatibles avec les nécessités liées à l'administration des propriétés communales, au fonctionnement des services ou au maintien de l'ordre public. De plus, elles seront soumises à un accord préalable, les demandes de mise à disposition des salles municipales afin d'organiser les réunions publiques devront être adressées à M. le maire, donc à moi-même par écrit, au plus tard 2 semaines avant la tenue de la réunion projetée. Parce que, effectivement, et en particulier les salles du Clos Bayard, mais également la Villa Saint-Michel, peuvent être réservées ou louées ou occupées de façon régulière par d'autres structures. m'autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Donc, pour cette période préélectorale, c'est tout candidat est traité de la même façon, mis à disposition des salles qu'on vient de citer, 11, 12, Villa Saint-Michel, gratuitement, avec une demande préalable au plus tard 2 semaines avant la date souhaitée, premièrement, et je dirais presque aujourd'hui, sans contrainte du nombre de mises à disposition. Mais on verra, pour la période électorale qui va s'écouler que sur 2 semaines, il est bien évident, il n'est pas question de confier à une liste toutes les salles pendant 6 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faudra peut-être, on verra comment ça sera arbitré, dire, ben voilà, pendant la période électorale en tant que telle, c'est une salle ou une autre, 2 fois une semaine, enfin, on verra la règle. Ça dépendra bien évidemment aussi, vous l'avez compris, du nombre de candidats et du nombre de listes. La question ne se posera pas s'il n'y a qu'une seule liste. Bon. Et donc maintenant, m'autoriser à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions par rapport à ça? Si on privilégie une liste ou un candidat par rapport à d'autres, c'est un don en nature, on n'a pas le droit. Donc c'est tout le monde pareil. Alors, vous savez que certaines ont déjà, je dirais, contourné a priori cette difficulté en créant une association de soutien à une candidature, ce qui leur permet en tant qu'association de Saint-Prix-en-Jarret de bénéficier des salles dans les mêmes conditions qu'une autre association. Donc on met tout le monde par cette délibération sur le même pied d'égalité, que ce soit en s'appuyant sur une association ou pas, tout candidat ou toute liste de candidats sera traité de la même façon. Et on a donc limité aux salles 11 et 12 au Clos Bayard, qui sont les deux salles au premier étage, et la Villa Saint-Michel, puisqu'en fait, après ça, il n'y a plus grand-chose, hormis le NEC, et dans l'immédiat, il n'est pas envisagé de le mettre à disposition. Des questions? Donc voilà, si vous entendez des gens qui veulent des salles, etc., je l'ai dit encore au forum à des personnes concernées samedi qu'on allait mettre les salles à disposition, et bien leur dire que s'ils veulent réserver à une date donnée, il faut faire la demande au plus tard 2 semaines avant. C'est sûr que si c'est par exemple un jeudi où il y a l'Astromia, non, il n'y aura pas de réunion ce jour-là. Si c'est un mercredi à la Villa Saint-Michel où il y a les chœurs, ça ne sera pas ce jour-là. Voilà, il faudra aussi s'adapter à d'autres réalités qui constituent en fait notre quotidien de gestion. Des questions ? Donc, qui est contre ce principe démocratique, qui s'abstient, qui est pour. Donc, à l'unanimité, on valide cette décision. Je vous en remercie pour les futurs candidats. On avait une délibération, elle était envoyée, la session d'Amur. Elle est envoyée, très bien. Donc, je vais l'évoquer maintenant, puisqu'on est toujours dans l'administration générale. Dans le cadre de leur projet de création d'un parking sur leur terrain, monsieur et madame Seine, propriétaires de la parcelle AD267, souhaitent acheter le mur situé entre leur propriété et la place Denis Ferréol. Donc vous avez eu la délibération, vous avez eu le plan, je suppose. La surface au sol du mur est de 8 mètres carrés. Par avis du pôle d'évaluation domaniale de la Loire, donc les domaines, en date du 21 août 2025, la valeur vénale de ce bien est estimée à 200 euros. Donc, je vous demande d'approuver la cession de la parcelle d'assises de ce mur d'une surface de 8 mètres carrés à monsieur et madame Seine pour un montant de 200 euros. Les frais d'acte sont à la charge de l'acquéreur. Donc, simplement, il veut acquérir ce bout de mur qui est municipal pour pouvoir accéder plus facilement à son terrain et en particulier à son garage. Des questions ? Propose de vendre à l'estimation des domaines. Vous savez qu'on peut faire 10% de moins ou plus, donc là on prend la valeur des domaines et puis on s'y tient. Des remarques ? Donc qui est contre cette décision de cession ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc à l'unanimité, nous validons cette cession. Place Denis Ferréol. Le point suivant. Nous sommes saisis par la maison d'assistante maternelle Mayaka pour une demande de subvention de 2000 euros afin de soutenir financièrement son début d'activité. Je vais vous lire le courrier de la présidente, Isabelle Pose. Par la présente, monsieur le maire, par la présente, nous sollicitons une subvention de votre part pour notre association MAM Mayaka, MAM en sourire. qui œuvre pour la prise en charge, dans le cadre d'une maison d'assistante maternelle, MAM, d'enfants accueillis dans leur individualité, tout en offrant les avantages d'une collectivité par la mise à disposition d'assistantes maternelles agréées. L'attribution d'une subvention de 2000 euros de fonctionnement permettra de soutenir financièrement notre activité et d'accomplir notre projet dans de meilleures conditions. Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à notre requête, etc. etc. Donc voilà, c'est une association qui vient de se créer. L'association, on a bien compris que son but était de proposer à des assistantes maternelles de se regrouper pour accueillir des enfants. Bon, déjà, première, alors, on avait donné un avis favorable, puisqu'on est saisi maintenant avec la CAF et la PMI sur ces problématiques. On a quand même un relais d'assistante maternelle municipale. On a plusieurs micro-crèches sur la commune. C'est une structure qui se crée et qui nous demande une subvention. Ça n'est pas dans nos pratiques habituelles. Généralement, quand on est saisi par une association, et on le fait chaque année, on leur octroie des subventions de fonctionnement en fonction de leurs activités et de leur situation financière. Là, c'est une association qui débute. Donc on ne sait absolument pas quels seront ses résultats, c'est-à-dire d'équilibre financier, on le souhaite, au bout d'un an, au bout de deux ans. Donc pour moi, c'est mon point de vue, je considère que c'est prématuré. Parce qu'à ce moment-là, toute structure associative ou parfois peut-être avec une finalité un peu plus commerciale qui va se créer, va nous donner, vous nous donnez de l'argent pour commencer. Donc moi, personnellement, mais ça, chaque conseiller municipal est souverain, personnellement, je ne suis pas favorable à cette demande. Alors, je vous laisse vous exprimer sur cette question. Corinne Maug.
Corinne Maug, oui, du coup, où j'ai pas entendu, où j'étais distraite. Est-ce qu'il y a une motivation pour l'utilisation de cette enveloppe ou, parce que j'ai entendu que c'est pour démarrer la structure, mais c'est pour financer quoi exactement
C'est leur budget. C'est leur budget. C'est ça aussi un petit peu l'ambiguïté. C'est que bah, normalement, les maternelles sont rémunérées par les parents et par la CAF pour accueillir des enfants. Là, c'est une mise en commun de moyens. Donc, il y a des locaux, il y a de l'électricité, il y a des charges, etc. etc. Normalement, ça doit être réparti entre les différentes assistantes maternelles qui vont s'installer dans ces locaux. Donc, je n'ai pas bien compris la finalité. Il y a un budget, voilà, dépenses-recettes. Voilà.
Oui, Rémi Mounier. Les assistantes maternelles qui interviendront dans cette structure auront accès, comme les autres assistantes maternelles de la commune, aux structures du relais d'assistantes maternelles qu'on met déjà à disposition et tous les dispositifs qu'on met à disposition des relais d'assistantes maternelles.
D'autres interventions ?
La différence, oui, Michel Bizassia, la différence entre une micro-crèche et une maison d'assistante maternelle, c'est qu'en fait, comme l'a dit Monsieur le maire, la maison d'assistante maternelle, c'est uniquement un regroupement d'assistantes maternelles qui ne souhaitent plus recevoir les enfants chez elles pour différentes raisons, et en principalement souvent des questions d'horaire. Mais ce sont des assistantes maternelles qui continuent à être rétribuées par les parents. C'est-à-dire que ce n'est pas une directrice qui décide et qui embauche des assistantes maternelles. C'est des assistantes maternelles qui décident de se mettre ensemble et qui partagent effectivement les frais la structure, c'est-à-dire les frais de chauffage, de tout ça. Et ça, c'est bien entendu mis en place par une convention, j'imagine, quand elles se mettent ensemble. Donc, c'est quand même quelque chose qui est à but lucratif, puisque c'est quand même leur salaire, les assistantes maternelles, mais elles sont payées par les parents. Donc je ne vois pas bien en quoi une association qui est formée sur une maison d'assistante maternelle a un but. Une maison d'assistante maternelle, ça a déjà un statut particulier, enfin, ça a déjà son statut. Donc le fait que ça devienne associatif, je ne vois pas ce que ça peut apporter de plus, à part peut-être des activités, des choses comme ça. Mais de toute façon, oui, comme l'a dit Monsieur le maire, il faut déjà voir comment ça débute. Si la personne, Madame Pau, trouve les assistantes maternelles, et voilà, et combien d'enfants seront concernés, puisque chaque assistante maternelle, vous savez, a un agrément qui est différent et qui, voilà, elle a des enfants, des droits des petits, moins petits, enfin, des périscolaires et tout. Donc ça, tout ça, c'est bien entendu surveillé par la CAF et la PMI. Voilà. Donc effectivement, je suis aussi de l'avis de Monsieur le maire Je pense qu'il vaut mieux attendre un peu un début de structure, puisque pour l'instant, elle n'est même pas ouverte, avant de voter une éventuelle subvention.
D'autres interventions ? Donc, on va passer au vote. Qui est contre l'octroi de cette subvention ? On va tout compter. Qui s'abstient ? L'abstention. Et donc, qui est pour ? Donc, à la majorité absolue, donc moins une abstention, cette demande est rejetée. Je vous en remercie. Point suivant, et là, ça sera peut-être un peu plus facile. Et je vais passer la parole à Rémi Mounier pour une subvention exceptionnelle pour l'association de basket.
Oui, merci. Donc, rebonsoir. Donc, le club de basket dans la catégorie U21 s'est brillamment qualifié en fin de saison dernière pour la finale des Coupes de la Loire. Ça faisait de très, très nombreuses années que le club n'avait pas disputé une finale. La finale a eu lieu donc à Belmont-de-la-Loire, dans le Rouennais. Et pour accompagner les joueurs, le club a organisé un déplacement en autocar. Et un déplacement qui a eu un coût de 750 euros. Une participation a été demandée à l'ensemble des personnes qui ont utilisé le bus pour partir à Belmont-de-la-Loire. Le club a représenté à peu près une recette de 350 euros. Il reste à la charge du club 400 euros sur ce déplacement. Et du coup, on a décidé, le club nous demande une subvention de 200 euros pour, on va dire, diviser les frais, sachant que, bien évidemment, les joueurs et toute l'équipe dirigeante n'a pas participé à la participation à ce déplacement. Pour information, bon, le résultat n'a pas été en notre faveur puisque ça a été une défaite, mais c'était voilà, un très beau match dans une belle commune. On a bien été reçu puisque j'ai participé aussi au déplacement et voilà, les joueurs ont fait honneur en tout cas aux couleurs de la commune et y a, comme dans toutes les rencontres sportives, un gagnant et un perdant. On n'a pas été du bon côté cette année, mais voilà, le club nous demande une subvention exceptionnelle de 200 euros. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui, donc ça leur fait forcément un surcoût, mais c'était bien de pouvoir aller à ce niveau-là de la compétition. Donc on vous propose une subvention à hauteur de 200 euros pour participer partiellement au surcoût lié au déplacement. Qui est contre ? Qui s'abstient, qui est pour. Donc nous validons à l'unanimité l'octroi d'une subvention de 200 euros au club de basket. Le point suivant concerne une modification des tarifs du cimetière. Lors du conseil municipal du 9 décembre 2024, le conseil municipal a procédé à l'actualisation, comme on le fait chaque année, donc, des tarifs communaux pour l'année 2025. Et notamment les tarifs pour le cimetière ci-dessous. Donc vous avez les tarifs, je ne vais pas les reprendre en détail. Ça portera surtout sur les tarifs des concessions et vacations. Afin d'harmoniser les tarifs des concessions par rapport à un prix au mètre carré, il convient de modifier certains de ces tarifs comme suit à compter du 15 septembre 2025. Pour les concessions, reprise des anciennes perpétuelles en 50 ans avec caveau, 723 euros, ce qui était déjà le cas. Reprise ancienne perpétuelle au mètre carré, pour 15 ans, 100 euros, pour 30 ans, 200 euros, et pour 50 ans, 667 euros. Pleine terre, 15 ans, 200 euros, 30 ans, 400 euros, 50 ans, 1334. Nous avions avant 180, 354 et 1287. Pleine terre, 4 mètres carrés, 15 ans, 400 euros, 30 ans, 800 euros, 50 ans, 2668. Nous avions avant 375, 756 et 3039. Vacation funéraire, elle reste à 20 euros, crémation ou absence de famille. Après, des caveaux modulaires, 2544 euros, ça ne change pas. 2895 pour 50 ans. Pour les enfants morts-nés, on est toujours à 129 euros, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment sur les concessions, en particulier en pleine terre, où on a ajusté les tarifs. Des questions par rapport à ça? Ça peut paraître un petit peu technique, mais bon, je veux dire, c'est un peu logique aussi d'actualiser les prix. Ça peut faire sourire, mais parfois, ça l'est beaucoup moins. Je vous garantis que l'activité cimetière, ça n'est pas toujours simple. Loin s'en faut. Et je sais parce que je signe régulièrement des renouvellements de concessions. Et puis, comme tout le monde, hein, on va finir par avoir des problématiques d'espace. Surtout, oui, c'est ça, on récupère en plus tous les indigents du CHU. Hein. Des questions par rapport à ça? C'est vraiment une décision très technique d'actualisation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, on actualise les tarifs du cimetière comme on vient de l'énoncer. Je vous remercie. Dernier point, comme chaque fois, je dirais presque, c'est un peu plus particulier. Conformément à l'article L313.1 du Code général de la fonction publique susvisé, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant, donc le conseil, de la collectivité ou de l'établissement. Par délibération 25-06-18 en date du 23 juin 2025, le conseil municipal a décidé la création d'un poste d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet à raison de 15 heures, un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe à temps non complet à raison de 15 heures et un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps non complet à raison de 15 heures. Je vous rappelle que pour l'enseignement artistique, à temps complet, c'est 20 heures. En application des articles L332-13 et L332-14 du Code général de la fonction publique, je vous propose de modifier à compter du 8 septembre 2025 la quotité d'emploi des postes précités, donc qui était de 15 heures, en les passant de 15 heures hebdomadaires à 13 heures hebdomadaires, soit 2 heures de moins. On réduit le temps de ces postes. Et afin de pouvoir confier ces 2 heures à un autre enseignant de l'école municipale des arts, je vous propose également de transformer un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps non complet à raison de 10 heures hebdomadaires. La personne fait actuellement 10 heures, elle travaille également dans une autre structure. En un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps non complet à raison de 12 heures hebdomadaires. Donc on retire 2 heures sur les 3 postes qu'on voulait créer à 15 heures, on les met à 13. Et 2 heures qu'on récupère, on les donne à un de nos enseignants qui était à 10 heures, qui va passer à 12 heures. C'est de la cuisine, mais ça nécessite une délibération. Et donc, de porter les emplois permanents ouverts à la commune comme annexés. Et ça, à chaque conseil, pratiquement, on vous présente ces petits ajustements. Donc là, on a eu 2 départs en retraite d'enseignants. Donc, on le savait, on l'avait dit à Eric Bernou partout, et vous le savez bien, on est obligé d'observer de façon très attentive les départs pour ou ne pas du tout les compenser, ou les remplacer, mais sur des durées moindres, ou redéployer. Parce que vous savez bien que nos frais de personnel, dans toute leur globalité, c'est un poste très important, notre budget de fonctionnement, dont on n'a plus vraiment la maîtrise avec les différentes augmentations. Vous savez que l'an dernier, ça a été la cotisation IRCANTEC. Je vous avais dit, lors d'un conseil, sur 4 ans, et sur 4 ans, on a calculé, c'est 420 000 euros pour la commune. L'augmentation de la cotisation IRCANTEC pour les fonctionnaires. Je ne sais plus, c'est Caisse nationale, oui. Sur 4 ans, à la charge de l'employeur. Bon, ça, c'est quelque chose. On ne peut pas dire oui ou non, c'est comme ça. Donc, on finance. Donc, voilà. Par rapport à ces ajustements, vous avez compris, simplement... En fait, il y a eu le départ en particulier de Jean-François Lannes qui intervenait dans les écoles. Et l'idée, c'est qu'il puisse être remplacé toujours dans les écoles. Peut-être pas sur la même amplitude, peut-être pas dans les mêmes conditions, ça va rester à définir. Mais là aussi, le travail entre l'école municipale des arts et les groupes scolaires est maintenu dans sa philosophie. Des questions par rapport à ça? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, nous validons cette modification des emplois permanents, et je vous en remercie. Donc, on a fini ce conseil qui était très bref. Je voulais vous donner quand même une information qui me semble importante. le mardi 30 septembre, en cette salle, nous recevrons une délégation de deux Saint-Mariens, deux habitants de l'île de Sainte-Marie, dans le cadre du comité de jumelage et des 30 ans, je crois, du comité de jumelage, c'est ça ? Donc, on va les accueillir en mairie. Donc, il serait souhaitable que le maximum d'élus soient présents pour les accueillir. Le comité de jumelage doit également solliciter les présidents d'associations ou leurs représentants, peut-être des représentants du corps enseignant, je ne sais pas, on verra. Donc voilà, ça serait bien que vous soyez présents, et pourquoi pas représentants du sous des écoles, de toute façon, qui seront sollicités via le tissu associatif. Donc notez-le, ça me semble important. Et il y aura également, bon, ça c'est en mairie, la réception en mairie, et le jeudi soir, le 2, il y aura un repas malgache organisé à la salle de la Bargette. Donc là, par contre, il faut s'inscrire auprès du comité de jumelage avec une petite participation modique. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une très... Comment ? Oui, bon. Le Célestival, ce week-end. Oui, mais c'est le Célestival, ce n'est pas la mairie qui l'organise. Voilà, bon. Il y a le Célestival, donc, ce week-end. Vendredi après-midi et vendredi soir, quatre conférences très intéressantes. Personnellement, je suis inscrit, hein, voilà. Et l'animation également au Clos Bayard, samedi après-midi, si le temps le permet, mais ça devrait pouvoir passer. Et si le temps le permet aussi, le soir, au CRÉ, l'observation du ciel. Voilà. Sur les conférences, il faut s'inscrire préalablement pour avoir un... C'est gratuit, hein, mais un QR code d'accès. Pour l'observation également, dépêchez-vous parce que ça commence à être très, très complet. Hein. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Merci.